Oui, qu'est-ce qu'il y a, Cyril? Non, je vois que tu t'interroges.
Ça sent la bulle?
Non, d'accord. Non. Oh, tu as une bulle à nous faire?
Ouais, je crois que là, il est en train de nous pondre une bulle.
Oui, j'ai bossé là, hein. Je suis arrivé les mains dans les poches, mais j'ai noté plein de choses.
Alors, mesdames, messieurs, si vous voulez bien me permettre, nous avons la bulle de Cyril.
Alors, elle est venue au bout de quel verre de ponche? Le huitième.
Alors, j'en suis à mon deuxième litre.
Alors, j'en avais fait
largement.
J'en avais fait 7 litres et ouais. On est arrivé à la fin de la gamelle.
Honnêtement, je pense que j'en ai pris un tiers. Non, peut-être pas. Oh, si,
allez.
Pas loin. Bref.
La bulle.
En fait, bon, ça va être très confus hein, parce que donc on parle d'une bulle de deuxième litre de ponche. Mais en gros, je partirais sur ce qu'on investit dans un jeu. En général, et puis je parlerai de l'échelle à laquelle on joue un jeu. Et pour ce qu'on investit dans un jeu, je pense à un investissement un peu psychique. Je vais partir d'une citation que je vais traduire en direct.
sous vos yeux ébahis.
Oui, sous vos yeux ébahis. Donc ça peut être assez confus, mais c'est de Shadow Games. C'est un roman de Glenn Cook de la Compagnie Noire, des années 1989. Je crois que chacun d'entre nous, à un moment donné, trouve une personne avec laquelle on se sent obligé de se comporter avec une honnêteté absolue, une personne dont la bonne opinion de nous-mêmes devient une sorte de substitut pour l'opinion générale du monde. Et cette opinion devient plus importante que tous nos petits plans de gredin, de avare.
Ouais, en gros, c'est une personne qu'on aime, quoi.
Exactement.
Ah, c'est pas le banquier.
Tout ce qu'on est en train de prétendre, tout en prétendant à tout le reste du monde qu'on est juste des gars sympas et corrects. Donc j'étais son objet de vérité, elle était mon objet de vérité. Donc effectivement, c'est sur l'amour, c'est sur les émotions, c'est un petit peu sur ce qu'on investit dans un jeu et ça répond à la question qu'est-ce qui rend un jeu réel ? Parce que en fait, j'ai revu en ce moment, je suis dans une phase où je revois un petit peu les forums, les vidéos EVE Online. Donc je vous ai déjà parlé dans ce podcast il y a longtemps.
Un nombre et incalculable
en fait,
de fois.
Une des réactions, qui m'a frappé dans le documentaire Kickstarter sur EVE Online, c'est une journaliste s'adressant finalement à des joueurs d'EVE Online lors de la FanFest et leur demandant mais vous préférez pas aller, je sais pas, faire des pique-niques, etc. Et non, pour nous c'est réel. Et donc pour eux, EVE Online, c'est réel. Qu'est-ce qui rend un jeu réel? Donc la théorie, c'est un petit peu que c'est les relations sociales qui le rendent réel. Ce qu'on investit dans un jeu, c'est parce que finalement, en comparaison de l'univers strictement réel de la famille, du travail, n'est pas satisfaisant. Et donc, on a une sorte de fuite vers un univers virtuel. Et en fait, je peux faire un autre point de départ, et si vous voulez, on a parlé pas mal dans les médias récemment d'un jeu qui joue à deux équipes de joueurs et un MJ. Et bon, une des tactiques générales, c'est le but du jeu, c'est à la fin, il faut avoir plus de points que l'équipe d'en face. Et la tactique favorite, c'est d'inciter le MJ à vous donner un avantage en provoquant les autres joueurs dans la surface de réparation afin d'avoir un penalty.
À mon avis, ton jeu, ça a pas l'air très intéressant. Je pense pas que ça va. Franchement, je pense pas que ça va séduire grand monde.
Mais vous vous rendez compte que le football, c'est le jeu le plus pratiqué sans toucher un ballon. C'est-à-dire que la plupart des personnes qui s'investissent dans ce jeu, qui ont un investissement psychique dans ce jeu, ne touchent pas au ballon. C'est des supporters.
Mais d'où ça vient ça? Qu'est-ce qui leur a fait rentrer ça dans la tête?
C'est un petit peu comme EVE Online dans le sens où ils ont un investissement psychique. Enfin, je dis EVE Online. Bon, je suis un petit peu ludocentrique. Hein. Il y a des tas de jeux comme ça. EVE Online, c'est un cas un peu à part dans mon expérience de ludique. Donc c'est pour ça que je le mentionne.
Candy Crush Saga, ça marcherait aussi.
Ben non, justement. À moins qu'il y ait tout un univers de Candy Crush Saga. Donc je n'ai aucune connaissance, mais là, ce sera peut-être l'objet d'une investigation ultérieure. Donc on a une sorte d'investissement dans un jeu et du coup pourquoi je ramène ça au jeu de rôle en fait. En comparant le football, EVE Online, pourquoi il y a cet investissement mondial pour des choses comme ça et le jeu de rôle c'est différent. Et en fait, le jeu de rôle, je mets ça quand je situe ça sur une échelle, en fait, dont l'abscisse est la taille du groupe social concerné. c'est assez proche de leur donner. C'est-à-dire, en gros, on commence avec zéro personne impliquée dans un jeu. Ensuite, solo. Alors, zéro personne, c'est quand une personne s'intéresse à un univers de jeu, peut-être, mais sans y jouer. Et voilà. Solo, c'est un domaine où le jeu de rôle est très mauvais.
Genre, tu peux connaître le fluff de Warhammer 40 000 sans forcément jouer au jeu de figurines.
voilà, c'est ouais, c'est l'état de ma réflexion à ce niveau de ponche. Et le jeu de rôle est très mauvais en solo. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on appelle ça pour le coup de la masturbation, ou enfin, c'est-à-dire qu'on se fait des plans, mais c'est pas, il manque quelque chose. Il faut un côté social.
Il y avait eu un concours de type Game Chef dont l'objectif était de créer des JDR en solo. Donc, par exemple, l'auteur de Monster Heart avait créé un jeu où on se prenait pour une sorcière adolescente qui s'appelait Teen Witch. Mais bon, je suis pas. Et pareil, Ben Lehman avait créé un jeu solo. Mais encore une fois, je suis quand même assez d'accord que c'était pas les jeux les plus intéressants de leurs auteurs.
C'est sûr que par nature le jeu de rôle est social, on va dire. Le jeu de rôle informatique, la console, etc. a occupé ce terrain, balayant les petits livres dont faisaient les héros et les trucs qui traînaient. Donc rien que ça sur ce domaine, d'ailleurs, je pense que le jeu de rôle a un territoire occupé. Ensuite, l'échelle sociale de prédilection du jeu de rôle, on est d'accord, c'est le groupe. C'est comme pour le podcast d'ailleurs, c'est le groupe, c'est la tablée. Et là, le jeu de rôle est génial. Il y a un côté social, fantastique. On peut construire des choses ensemble et les construire semaine après semaine. Enfin, c'est vraiment là où il est le plus fort.
Bah, c'est aussi que le groupe, en fait, le groupe qui est autour de la table correspond exactement au nombre de joueurs qui vont jouer l'aventure, contrairement par exemple à un MMO où tu as plein de gens mais qui ne sont pas autour de toi. Et
bah, il faut vraiment que tu joues à EVE Online, parce que EVE Online, justement, tu peux jouer avec 300 personnes, 1000 personnes,
ouais, oui, oui,
10 000.
Mais je pense que tu n'as pas le même ressenti.
Justement, ça, pour moi qui ai comparé justement les MMO, on va dire World of Warcraft et de type World of Warcraft et les MMO, enfin le MMO of EVE Online, y a vraiment une sensation très très distincte, justement, parce que quand on passe du groupe au grand groupe, on va dire, tu peux faire des choses en convention, par exemple, tu peux faire des multitables. Qui sont une forme d'ailleurs sous-exploitée, je trouve, du jeu de rôle. Ça pourrait être très intéressant de faire The Wire, une équipe de flics, une équipe de truands, et puis
Nightcrawler 2, on avait fait plein de multitables et ça marche magnifiquement. Bah, pour les jeux de cas,
j'ai très bon souvenir de multitables, en tout cas, et il n'y a pas de jeu de rôle qui intègre le multitable dès la conception et qui le favorise. Enfin, à ma connaissance.
C'est clair, parce qu'en fait, le jeu de rôle, la cible de l'objet bouquin, du livre, de jeu de rôle, c'est le pour le MJ, pour son groupe. C'est, ils pensent pas aux organisateurs de conventions. Ou alors ils font des PDF qui seront distribués dans les dites conventions.
Complètement. Et le grand groupe, pour moi, c'est même pas le jeu de rôle qui brille. C'est peut-être d'autres styles de jeu, le jeu de cartes. À noter que pour la tablée, il y a aussi le jeu de plateau qui est très fort, mais sinon, c'est la guilde, classiquement, on pense à des jeux, donc à des MMO, voilà, World of Warcraft ou d'autres, hein, c'est un format qui fonctionne très bien. Et sinon, il y a le format, l'échelle sociale immense, on va dire, qui dans EVE correspond à l'Alliance ou au Bloc ou au Super Bloc. Et j'ai réussi pas à lire mes notes, mais en gros, ce qui est intéressant et ce qui n'est pas, ce qui n'apparaît pas vraiment dans le domaine du jeu, c'est que bon, il y a des gens qui jouent à EVE Online sans avoir de compte actif, sans jouer au jeu.
Oui.
Et d'une certaine manière, je me considère comme ça.
J'en connais beaucoup qui, par exemple, ont deux comptes et sur lesquels ils passent leur temps, en fait, ils mettent des timers pour pouvoir aller choisir des nouvelles, le développement de nouvelles technologies, des machins et des trucs. Et en fait, leur jeu c'est du solo, mais c'est cantonné au développement technologique de son propre personnage.
L'avantage de Live Online, c'est que tu peux le jouer soit en y jouant pas, techniquement,
c'est ça,
soit en y jouant en solo, ça fonctionne, en petit groupe, en grand groupe, en groupe immense. Et je retrouve pas cette souplesse dans le jeu de rôle. Et quand on conçoit un jeu de rôle, certes, on peut le concevoir pour un format particulier, mais ensuite, quand on a une... un beau monde, pourquoi pas imaginer vraiment quelque chose d'un peu plus ambitieux. Et EVE Online, donc on y retourne, mais juste vite fait.
Très bien.
C'est...
J'apporterai des.
Vas-y, je t'en prie.
Sur le. Mais en fait, je trouve que la comparaison n'est pas vraiment viable parce que. En fait, quand tu joues à Eve, tu peux choisir d'appartenir à un groupe de 1, à un groupe de tes potes ou à tout l'univers. Et le truc, c'est que le jeu de rôle, c'est cantonné à ton groupe.
Oui.
Parce que tu ne peux pas avoir techniquement de synchronisation.
Et pourquoi pas ? Et pourquoi on n'essaierait pas d'inventer une méthode ? Alors, soit on invente une méthode, soit on poursuit. On n'est pas obligé de garder le même fonctionnement à chaque échelle.
Oui.
On pourrait imaginer que, je sais pas, hein, je dis une connerie, mais Shadowrun, on pourrait imaginer que il y a un jeu vidéo qui permette de faire le décœur. Voilà. C'est très approprié puisque c'est informatique, on va dire.
Shadowrun Return le fait très bien.
Voilà, donc on pourrait imaginer quelque chose comme ça. On pourrait imaginer un système pour faire cohabiter les joueurs, avoir une base de données de personnages.
Mais en fait, moi, ce qui m'intéresse dans le jeu de rôle, c'est le vrai jeu des vrais gens, si tu veux. C'est pas le fait d'avoir une interface. Une interface minime, genre les trucs audio-vidéo où tu peux voir le mec qui est à 3000 km de toi. Pour pouvoir faire ta partie, ça oui, mais avoir une interface où déjà par nature tes actions sont limitées par l'interface que tu utilises, ça me semble vraiment chiant.
Non, parce que
et d'autre part, comment en fait je conçois pas comment tu pourrais faire par exemple s'il y a synchronisation de plusieurs groupes, ça signifie qu'il y a au moins une campagne commune ou au moins un background commun ou en tout cas des choses qui s'entrecroisent ou qui se mélangent.
C'est compliqué, on est d'accord.
Alors non seulement c'est super compliqué, mais en fait c'est surtout qu'il faut que tu sois en communication quasiment constante pendant une partie avec les MJ de toutes les autres...
Avec le monde entier.
Non, mais en fait, il faudrait... Non, pas en communication constante, mais en tout cas que les MJ des autres parties qui seront amenés à jouer dans le même univers, ils sachent exactement ce qui se passe et tout. Et alors, j'ai joué à des trucs comme ça, mais c'était un seul MJ qui avait 5 ou 6 tables. Et donc, évidemment, de fait... lorsque on jouait, lui-même arrivait
à se synchroniser. Ça pourrait être la solution à l'échelle mondiale. Un seul MJ pour tous les joueurs du monde.
Il arriverait à se synchroniser avec lui-même et donc à offrir il pouvait dire à un groupe, alors il y a un type que vous connaissez pas qui vous apporte des objets et tout.
Imagine que c'était
un mec de l'autre équipe. Tu vois, où tu as vraies interactions entre groupes.
Dans l'auberge, vous allez voir ce vieux monsieur avec un parchemin et vous trouvez un espèce de groupe d'aventuriers qui ont l'air de cacher un gros objet qui brille sous leur cap.
Imagine que ce MJ s'appelle George Martin et qu'il soit assisté par ordinateur, enfin, système.
Je quitte la partie parce que sinon...
Mourir.
Sinon, juste pour conclure sur le à l'échelle des sociales un petit peu immense, c'est-à-dire que vous savez que en tant que qu'être humain, on n'est pas habitué de toute façon d'interagir avec des centaines et des centaines d'autres êtres humains sur une base régulière, tout en ayant des relations sociales constantes.
Mais ça dépend combien tu as d'amis Facebook, par exemple.
Mais tu ne viens que confirmer mon propos.
Ouais.
On peut avoir 2000 amis Facebook, c'est très bien, je conteste pas, mais ensuite avec qui on va interagir le plus, il y aura forcément si on interagit une seule fois avec un ami, ça reste un ami, mais bon, un ami d'une fois quoi. Tout ça pour dire que à l'échelle immense, à l'échelle d'une alliance, à l'échelle d'un jeu, ce qui m'intéresse dans EVE Online aussi, c'est qu'ils ont reconnu que tous les joueurs était bon, alors, eux c'est juste les joueurs qui ont un compte payant, mais ça je peux comprendre, mais que tous les joueurs ont un intérêt dans le succès du jeu, dans la construction de cet univers commun. Et donc ils ont mis en place le conseil de gestion, c'est-à-dire Council of Stellar Management. Et puis pour le jeu de shoot qui se passe dans le même univers, qui s'appelle Dust, ils ont mis en place le Council
qui a l'air d'être de la merde, d'ailleurs.
Of Planetary Management. Je sais pas du tout parce que j'y ai jamais joué, je connais pas du tout. Mais et ça existe pas à ma connaissance en jeu de rôle, quoi. Il y a c'est des petites communautés beaucoup plus petites, hein. Il y a pas 500 000, 600 000 personnes qui votent ou quoi que ce soit. Mais par exemple pour un jeu comme Donjons et Dragons, il y a pas de conseil des joueurs de Donjons et Dragons. Et finalement, je me dis que ça aurait pu être une bonne idée, quoi, une idée pour faire évoluer le jeu vraiment plus ensemble.
Mais en fait, je pense que quand tu maîtrises à ton groupe, machin, tout ça, tu t'as pas forcément envie de te synchroniser avec des gens faire des trucs. Et que, par exemple, la semaine d'après, t'as très envie de faire jouer à Toon. ou à Fatal, ou à ce que tu veux.
Bien sûr, l'idée n'est pas de forcer les gens à jouer, mais je reviens à ce...
Non, mais je veux dire aussi que tu peux avoir une pratique du jeu de rôle très versatile, finalement.
Ouais, ouais.
Ah, moi, ça me rappelle plutôt les vieux jeux par courrier.
À moins de faire du Pathfinder Societies, tu sais, où tu... en fait, la plupart des mecs qui jouent à ça, ils ne jouent qu'à ça. Donc effectivement, ils peuvent se permettre de se lancer dans des campagnes au long cours, avec des interactions croisées avec des gens aux quatre coins de l'hexagone.
ouais.
Comme le veut la formule pourrie.
Oui, mais en fait, dans chaque communauté de joueurs, tu auras une petite partie, peut-être, qui ne joueront qu'à ça.
Ouais.
Une autre partie qui en feront leur loisir ludique principal. Et une vaste majorité qui joueront une fois ou deux dans l'année, ou j'en sais rien. Enfin, donc, faut prendre ça au global. Faut regarder qu'est-ce qui ressort au global. Et je suis d'accord, par ailleurs, que t'as pas envie que ta partie du samedi soit régentée par les desiderata de tout le monde. Mais dans la réalité...
Non, mais c'est pas régenté. Non. En fait, là, pour le coup, je voyais un truc plutôt positif. Hein, c'est-à-dire... ah tiens, il s'est passé tel truc, et donc tu pourras l'inclure dans ta partie sous la forme d'une rumeur ou d'un truc. Ton Mr. Johnson te dira, ah oui, il y a du grabuge, oui, il y a eu un run récemment ouais. À tel endroit, et
ah
donc
oui,
c'est un peu chaud.
La centrale nucléaire a explosé dans la ville. Hein.
Ouais. les mécaniques particulières pour exploiter d'autres échelles sociales que la tablée dans le jeu de rôle, j'en propose pas, je sais pas, mais je pense qu'on peut réfléchir à
des trucs. Non, mais je pense que c'est possible, mais c'est juste qu'il faut être suffisamment investi. Et...
Ah oui, c'est sûr que c'est...
Moi, je te dis, ça me rappelait les jeux par courrier en tour par tour, où t'envoyais ta fiche d'action, et hop, il y avait un tour par mois, et hop, ta flotte viking avançait d'une case, parce que t'as un vent de travers, voilà quoi.
Oui, si on veut, c'est une sorte de diplomatie géant par courrier. Ouais.
Sauf que là, tu pourrais te retrouver piégé par les différences de rythme. Oui. Entre des joueurs fréquents qui seraient amenés à transformer le monde, peut-être
voilà,
de manière radicale.
Et du coup, en fait, quand tu fais ton tour de jeu, en fait, on annonce qu'il y a une montée des eaux, qu'en fait, les samouraïs arrivent. Mais j'ai loupé quelques tours, là.
Jeff, continue, tu disais...
Oui, non, mais c'était ce sens-là. Hein. C'est le côté, je suis parti pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, il y a les acharnés qui ont joué. Et la planète sur laquelle j'étais, je voulais installer ma maison, maintenant est totalement occupée par des lézards. ma fiancée, elle est partie, je sais pas où faire les courses. Et je sais pas encore quelle catastrophe a pu arriver dans le monde.
Oh, puis, voilà, même pour des raisons de santé, t'arrêtes un truc et tout. Alors voilà, j'ai loupé ma partie. Ah bah désolé mon gars, tu n'es plus dans la course pour la maîtrise du monde.
Oui, c'est
alors
ça.
Que ton équipe l'équipe de super-héros que t'avais était super bien placée et tout.
Remarquez que j'ai pas proposé en fait que les actions dans une partie de jeu de rôle aient un impact direct dans les actions d'une autre partie de jeu de rôle par un autre groupe. Moi je vous ai parlé des groupes de joueurs qui mettent en avant leur intérêt dans le jeu, dans la communauté du jeu, et qui donc soit une partie prenante des décisions pour l'avenir du jeu, etc. Ça, je trouve que c'est quelque chose, par exemple, qui manque et qui pourrait servir utilement
Mais en fait,
dans certains jeux en tout cas.
Mais en fait, j'aurais tendance à considérer que les que c'est pas très intéressant les interactions au niveau méta entre groupes de joueurs et tout, parce que de toute façon il pourrait pas y avoir de il ne pourra pas y avoir de rencontre entre les 10 groupes à moins de faire vraiment exprès quoi. Et donc du coup ce qui est
ça, à un moment donné le jeu doit s'adapter aux contraintes techniques hein, c'est comme tout.
Oui, du voilà,
coup,
c'est ça ouais.
Du coup si on conserve et là on parle bien du jeu de rôle sur table classique pen and paper il faut enfin si on veut intéresser plus de monde,
on n'a jamais parlé que de ça, Cyril.
Si on veut intéresser plus de monde, enfin, et donc en conséquence avoir plus d'investissement psychique quelque part dans le jeu et quelque chose d'un peu plus grand que
moi,
le groupe.
Je pense que l'investissement psychique.
Et il faut trouver les règles pour le faire. Faut imaginer le monde pour.
Mais en fait, justement, je pense que l'investissement vraiment, comme tu dis, psychique où tu es vraiment dans ton perso, il ne peut que se situer que au niveau du groupe. Parce que tu as des vraies interactions avec des vrais gens et...
Et qu'il y a aussi tout un corps de règles implicites au groupe, un petit peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec, hors-champ avec François, de choses qui sont implicites au groupe, qui n'ont pas été codifiées dans le livre de règles, qui sont sujets à interprétation, plein de choses de ce style-là, et qui fait que ce qui s'applique dans ton groupe ne s'appliquera pas nécessairement aux voisins, et que
Et en plus, par exemple, un truc dans les Pathfinder Societies, un truc qui m'intrigue, c'est quel est le type de jeu que propose le MJ qui va s'investir là-dedans. Parce que par exemple, il y a des MJ super généreux qui vont... c'est genre, tu trouves un trésor, t'as minimum un objet magique plus 2 dedans, tu vois. Et tu en as d'autres, c'est des gros rapias et tu dois... Tu dois gratter des arbres pour manger de l'écorce, pour avoir tes rations et tout. et cette simple différence entre l'interprétation des règles peut faire que certains groupes, finalement, ont plus d'importance stratégique sans vraiment le vouloir. C'est simplement qu'ils jouent plus high level parce qu'ils aiment bien ça.
Alors, il y a quand même un contre-exemple qui... disons d'ambition un peu modeste qui pouvait fonctionner, mais c'était COPS, puisque COPS on avait eu des élections municipales des élections du gouverneur de l'État de Californie, et Asmodée avait proposé aux joueurs de voter pour son gouverneur, et ça avait été au final l'écolo d'extrême gauche qui avait été élu, ce qui allait quand même un peu en contresens du background et qui n'avait pas été si bien que ça exploité par les auteurs. On avait un peu senti que ça les arrangeait pas plus que ça quoi. Ils avaient ouvert les vannes, mais ils n'avaient pas trop réfléchi quoi.
Ils auraient préféré un facho qui aurait amélioré l'équipement militaire des forces de police.
Surtout ça pose un vrai problème, c'est quel est le degré de comment dire, quel est le degré de réalisation de tout ce que font si on prend cet exemple avec plein de tables de joueurs de COPS partout en France machin qui font leur truc, mais est-ce que dans le contexte du jeu, est-ce que ça a un sens finalement que eux ils puissent élire ce personnage qui est finalement assez à la marge, et c'est comme si tous ceux qui actuellement votent lutte ouvrière remportaient la prochaine élection présidentielle. Ça me semble aberrant en fait.
Oui, tout à fait. Enfin, s'il y a eu des difficultés à prendre ça en compte, c'est que c'était pas cohérent avec le background, c'était des préoccupations un peu méta quoi, puisque
du coup ce que tu nous prouves c'est que c'était une mauvaise idée.
En tout cas oui, ça a pas donné lieu, enfin on s'en souvient assez peu, et ça a pas révolutionné grand chose.
Ceci dit, là on parle d'une élection qui a une influence dans le jeu en théorie.
Je retourne
sur Yvonne Lane, le CSM, le CPM, c'est complètement hors du jeu. Il n'y a pas de, concrètement dans le jeu, il n'y a pas de, il y a pas d'impact. Peut-être un tag qui montre que vous êtes du CSM, mais c'est d'où?
Du quoi?
Le Council of Stellar Management, le conseil des joueurs en gros.
Ah, pas, parce que pour moi c'est le conseil supérieur de la magistrature, donc
ça, oui,
ça fait des collisions dans mon cerveau.
Enfin, toujours dit que c'est juste pour, enfin, ils font des rencontres avec des développeurs, ils vont sur les forums, enfin, mais c'est pas du tout dans le jeu. Ouais. Mais en revanche, ils s'intéressent, c'est la voix des joueurs pour diriger le jeu en fonction aussi de leur vécu personnel, de leur jeu au quotidien.
C'est plus du retour client et un truc marketing, quoi. C'est plus de l'investissement dans l'univers, là, c'est plus de l'investissement psychique, là. C'est tu choisis
c'est
de.
Sur le système, ouais.
Ça. Tu fais. Tu fais un retour pour que le jeu
c'est
soit
sûr, c'est
dans ton sens.
C'est sûr que c'est
toi,
un outil marketing.
Toi utilisateur, quoi.
Mais je pense que c'est un peu plus que ça.
Hmm. Oui,
forcément,
mais encore.
Votre
oui, voilà. non, mais par rapport au CSM, puisque vous en parlez, ils ont déjà eu un rôle critique par rapport aux développeurs, en les incitant à abandonner une certaine voie où ils continuent à faire de nouvelles features sans les peaufiner, sans enlever les bugs, etc. Et à revenir sur ce que cherchent les gens en fait quand ils vont sur Internet pour jouer à EVE Online. C'est à détruire des vaisseaux spatiaux avec d'autres vaisseaux spatiaux. Ils ont permis un recentrage là-dessus.
C'est un gros investissement psychique en fait.
Et encore, ça c'est si tu ne vends pas des doses de deuterium contre
Oula.
Des.
Voilà, n'en parlons pas. J'espère que le prochain élu ne permettra pas la vente de Terry.
D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc, dans EVE Online, tu investis beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, et tu peux perdre tous les résultats de ces efforts, de ce temps dépensé, en quelques instants, hein, parce que c'est un jeu où tu peux perdre tes possessions.
Exactement, comme je disais tout à l'heure, comme Candy Crush Saga, quand ils font une mise à jour sur les tablettes et que ça part et que t'as perdu tous tes points.
Ah, t'as perdu tes high scores.
Je sais pas, j'en sais rien, mais j'ai lu ça, mais.
Oui, mais c'est pas pour toi, c'est pour un copain, c'est ça.
Non, mais en fait, très souvent sur les applications, tu vas voir marquer ça. En fait, il y a eu une mise à jour et j'ai tout perdu. Et un jeu sur deux, c'est ça. Donc je suppose que ça marche aussi pour Candy Crush.
Est-ce qu'on peut jouer sur tablette en fait?
Je sais pas, oui, enfin, c'est, voilà. C'est pour lire des PDF de jeux de rôle, les tablettes. C'est tout.
Tatin. Bon.
Voilà. Donc, je pense quand même qu'on a plus d'investissement dans un jeu comme EVE Online, même sans y jouer, où on a l'impression de faire partie d'une grande communauté et on investit plus dans les relations sociales que dans Candy Crush, où on demande à sa voisine comment améliorer son score.
Ou que dans un jeu de rôle sur table. Parce qu'on n'investit pas autant de temps dans un jeu de rôle sur table qu'on le ferait sur un EVE Online sur lequel on peut se brancher quand on veut, le soir, etc.
Oui, sauf que, enfin, ça dépend. Hein. Moi, je me souviens quand j'étais ado et qu'on était à fond dans le jeu de rôle, on y pensait quand même pas mal de temps. Entre les parties, on s'échangeait des emails. Ah oui, je backstab mon copain à Vampire, enfin des trucs comme ça.
Et je récupère son trésor, tout ça.
Mais même à l'époque, c'était plus facile de passer plus de temps sur une console de jeu que.
Tout à fait. Dans ce sens-là, parce que chez toi, tu n'appartiens pas à un groupe social et tu organises ton emploi du temps comme tu veux. Et dès que tu veux commencer à réunir 4-5 personnes, ça devient difficile pour faire ta partie de manière régulière. Alors si tu dois en réunir 100, s'il fallait que les 100 personnes soient connectées simultanément sur EVE Online, etc., entre Robert Calachias, l'autre qui a les enfants, l'autre qui est en décalage horaire.
C'est pour ça que l'avenir du jeu de rôle, en fait, c'est où quand tu veux être MJ, tous tes joueurs sont des robots.
Oh, ça serait bien ça.
Comme ça, tu sais qu'ils seront là. Ouais. Oui, ou l'inverse, mais tu sais qu'ils seront là et tu pourras faire ta partie. Ils seront pas pénibles, ils ouvriront pas la fenêtre lorsqu'il faut pas, ou je sais pas quoi.
Ils suivront le scénario.
Non, mais ou alors
tout en étant proactif.
Tu fais comme moi, tu joues par hangout, comme ça je peux être en pantoufle chez moi en fumant mes clopes et chacun peut être chez soi dans le milieu qui lui convient. Voilà.
Vous avez déjà eu des hangouts avec quelqu'un dans son bain?
Non. Non. tu me gênes là.
Tu parles bien de jeux de rôle.
Tu aimes bien le film de Gladiator.
Tu aimes quand Scratchy
se frotte contre ta jambe de haut en bas.
Bon.
Allez.
Eh bien, je pense que l'on conclut là cette bulle improvisée.
Ouais, une grosse bulle. Hein.
Une grosse bulle.
Ça, c'est le punch rallonge les bulles.
Putain, les mecs, on en est à 5 heures d'enregistrement.
Non, mais les gens à chaque fois disent, ah, mais il y a combien de parties? Je n'écouterai que quand tu auras tout.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, eh bien, je pense que c'est le moment.
Pour faire une sixième partie.
Ouais, voilà. Exactement, pour faire une sixième partie parce que nous avons la chance d'avoir un vrai auditeur sous le, en chair et en os sous nos yeux. Et ah, mais qu'est-ce que tu fais?
Non, bah, je disais, il y a deux auditeurs, en fait.
Ah oui, c'est vrai, mais elle lit. Et donc, nous avons notre éditeur sous la main que nous allons pouvoir torturer à loisir. Et tiens, alors, voyons voir. Première question, comment as-tu découvert Radio Rollis, Jeff?
Faut vraiment que je dise.
Bah, ouais.
Ce n'est pas sale.
Par un autre auditeur, et puis par des... par des échanges avec un certain nombre d'autres listes, tout simplement.
Alors, quel autre éditeur?
Alors, on ne communiquera pas, mais une fois que tu nous donnes des noms... Hein,
On le bipera éventuellement.
Alors, on va jouer au voyage dans le temps, puisque à la date où nous enregistrons, je le croise demain, donc je salue rétrospectivement Stéphane, qui je pense reconnaîtra ma voix et qui ben, pour rappel a rendez-vous aussi avec Jérôme justement chez lui, on se retrouve tous les trois demain.
Et sinon s'il pouvait prendre les clés du camion à Dédé parce que
parce que ça fait 3 jours qu'il est garé en double fil.
Voilà, c'est ça.
Et je ne vous dirai pas ce que nous ferons et ce n'est pas des jeux de rôle, mais ça a à voir avec.
Ah, vous allez boire.
Ça va probablement arriver.
D'accord.
Mais ce sera pas l'essentiel.
Non, mais donc voilà, tu as en fait quelqu'un t'a dit oui, voilà, il y a un podcast sur le jeu de rôle.
En fait, il y a de plein de manières, j'ai entendu parler de Radio Rollis et d'autres podcasts sur le jeu de rôle. Stéphane en particulier, lui, enregistre des podcasts et se les écoute assez régulièrement dans les transports. Parce que...
Et il en enregistre aussi ?
Quoi ?
Il en enregistre aussi ?
Non, mais enfin, il transfère sur un appareil portable, quoi. Ce que moi j'ai pas comme pratique parce que je préfère tant que je peux lire dans les transports, mais voilà, il m'arrive de trouver du temps hors transport pour écouter les podcasts Radio Rollist entre autres.
Et alors avec quel numéro as-tu commencé, pardon?
Ça, je sais plus du tout en fait. J'ai pris les choses un peu dans le désordre. Ouais. Maintenant, si on veut revenir
putain,
à quelque
ça
chose
fait un max de bruit.
Quelque chose de plus précis, je me souviens concrètement sur un podcast qui est quand même relativement récent.
Ouais.
Avoir échangé avec Michael après ce qu'il avait annoncé par rapport à Age of Rebellion.
Ouais.
Et donc là, typiquement, je suis passé d'un rôle qui était jusqu'à présent passif à un rôle qui était plutôt d'échange avec
interrogatif, voilà, j'ai besoin de plus d'informations sur tel truc. Et alors, as-tu été satisfait?
Par le service après-vente,
voilà,
Radio Rollist.
Par le SAV Radio Rollist.
J'ai été satisfait par la qualité du réseau d'information, effectivement. Et les sources étaient les bonnes. Après, je ne suis pas forcément satisfait par la réalité. Mais bon, c'est pas...
Par la réalité de l'objet
Non, la réalité...
Bon, il t'a refourgué un jeu pourri.
La réalité qui est que,
c'est trop bien,
que Edge ne sort pas le kit d'initiation de Age of Rebellion.
Ouais.
Simplement pour des questions d'insuccès du kit d'initiation précédent.
C'est complet... Enfin, moi, ça me paraît complètement possible. Enfin, après, je ne sais pas, je n'ai pas du tout les chiffres, ni rien du tout de...
Je ne les ai pas non plus, hein. c'est les retours qu'il y a et qui sont aussi présents sur les forums Edge.
Ouais.
Il m'arrive relativement régulièrement de faire de la démo initiation ou découverte de jeux de rôle en convention.
Ouais.
Et c'était quand même un bel outil pour ça, mais je comprends qu'il n'y ait pas un nombre de clients énorme...
Comment ça
le kit d'initiation
le premier kit d'ailleurs pas bien marché, ils ont pas le deuxième.
Mais le premier est vachement bien. Enfin,
oui
mais
s'ils
si l'ont pas vendu, il a beau être super bien. Voilà.
Oui, c'est vrai,
le deuxième,
c'est vrai,
hein.
C'est vrai.
Il est bien foutu, ouais. Parce qu'il y a du joli matériel. Ouais. Bon, le scénar est pas très compliqué, mais c'est très bien pour
faire
découvrir,
quoi,
le jeu, etc.
Mais ce qu'il y a, c'est que ce qu'il faudrait, c'est qu'il soit acheté par des mômes de 12 ans. Donc, il n'y a pas forcément des mômes de 12 ans qui vont dans les boutiques. C'est plutôt des quarantenaires un peu replay.
Bah après, la mécanique, on peut l'avoir en convention. Il arrive que des auteurs qui font des démos arrivent à convaincre même des gamins d'acheter leur jeu. Alors, on peut... de toute façon, la dynamique financière d'Edge en tant qu'éditeur est pas concentrée sur le jeu de rôle, on le sait très bien. Donc c'est pas, on peut pas leur faire
comme
de reproche de ce côté-là.
Comme tous les éditeurs qui vivent à peu près correctement.
D'autres choses que purement du jeu de rôle.
C'est ça.
Et en général, oui, ceux qui vivent du jeu de rôle sont rarement parallèlement auteurs, ou alors ont des sorties qui sont avec des fréquences extrêmement espacées.
Ou alors ils font tout par crowdfunding.
Alors qu'ils pourraient investir l'argent qu'ils ont un petit peu en caisse.
Voilà.
Ça, ils prennent pas de risque.
Mais je sais pas comment un auteur de jeu de rôle pourrait maintenant vivre de crowdfunding.
Exemple, Jérôme Larrey.
Il en vit réellement.
Il faudrait que je parle
avec lui à l'occasion.
Non, mais on en a déjà discuté. Enfin, je pense pas le. J'espère ne pas me mettre en porte-à-faux vis-à-vis de lui, mais il me semble qu'il fait vraiment plein d'autres activités parallèles qui font que finalement il arrive à en vivre, mais ce n'est qu'une partie de son activité.
D'accord.
Voilà.
Tu n'as pas divulgué ce qu'il y avait sur son compte en banque, c'est bien.
mais parce que j'en sais rien du tout, mais à mon avis, c'est pas baiser, quoi.
Non, en France, ça n'a jamais été monstrueux.
Non, non.
Les revenus sur les jeux de rôle.
Rends les sous, Jérôme. Vas-y, paye ton punch.
Alors, et toi, à quoi tu joues ?
À quoi je joue ? Ouf. À quoi je joue régulièrement ? À quoi j'ai joué ? À quoi j'aimerais jouer ? Oh, y a plein de questions.
Alors, ah oui, c'est vrai que moi, j'ai ce genre de truc. À quoi tu as le plus joué ? À quoi tu aurais aimé beaucoup jouer ? Et quel est le jeu qui te titille en ce moment ?
Waouh !
Les questions sont au moins précises.
Alors, mais pour ceux qui n'ont pas la couleur, on va la refaire. J'arbore un t-shirt Ars Magica de belle facture. C'est un jeu que j'ai commencé à apprécier dans les années 90, ou à peine avant. Mais j'étais pas forcément dans des cercles rôlistes très larges à l'époque.
Ah.
Parce que je jouais au lycée avec des potes et voilà.
Voilà, et ça
c'est pas forcément
tout ça, tout
c'est
ça.
Pas forcément l'époque où j'allais en convention, qui était plutôt antérieure.
Mmh. Antérieure ? Avant de jouer, tu allais en convention ?
Non, avant de jouer à Ars Magica.
Ah, d'accord, ok, très bien.
Parce que j'avais pratiqué des jeux des années 80 avant. Hein, on peut parler de plusieurs jeux de croc, on peut parler de Raymond.
Vas-y,
Dragon,
tu sais, tu peux faire du name dropping en veux-tu en voilà ici, enfin je ne me prive pas pour ma part.
J'ai même joué à Donjons et Dragons ancien.
Oh, dès la boîte rouge, tout ça.
Une boîte rouge, alors pas la boîte rouge originelle VO, mais une boîte rouge française, ouais. Pas forcément très longtemps d'ailleurs. Ça a dû être ma première année de jeu de rôle. Je pense pas que j'en ai réellement utilisé après. Après, bon, j'ai fait de l'appel de Cthulhu comme beaucoup à l'époque aussi.
Et donc, le jeu auquel tu as le plus joué, c'est Ars Magica ?
Ben, je me demande en fait. C'est bien probable. en termes de nombre de séances, ouais, ça doit être celui-là parce que il y a eu pendant quelques années où j'ai joué quasiment qu'à ça en fait. Pas forcément très régulièrement, mais quasiment qu'à ça. Donc je pense qu'en temps cumulé, c'est Ars Magica qui a le record. Pas forcément totalement dans le...
By the book.
dans l'Europe mythique.
Ouais.
Parce que j'ai aussi droit à une adaptation par un MJ d'un mélange d'autres univers. Et avec une grosse partie de Roue du Temps.
Ouais. Alors je l'ai jamais lu parce que ça a l'air chiant, mais
oui,
y en a-t-il qui l'ont lu ?
Alors moi j'ai commencé à le lire après avoir joué. Franchement, ouais. Au bout d'un certain nombre de volumes, tu t'aperçois que l'auteur dilue. Et c'est une technique qu'il a attrapée alors qu'il écrivait du western. Et voilà. Alors que je suis très bon public, on va dire, ouais. En termes de romans. Alors après, j'ai les auteurs que j'apprécie plus que d'autres.
Et en plus, il me semble que l'auteur est mort avant la fin, en plus.
J'en sais rien et j'en ai rien à faire.
C'est bien le principe de la roue du temps. C'est qu'elle finit toujours pas à vous rattraper.
Mais concrètement, je suis arrivé à un volume, même en étant très bon public, où quand je l'ai refermé, je me suis aperçu qu'il s'était rien passé dedans. Et donc, j'ai arrêté la lecture.
Ah. Commentaire de Sean.
Je ne sais pas si tu l'as lu en français ou en anglais.
En français.
D'accord. Alors en fait, c'est l'éditeur français qui a coupé des tomes, comme ils font pour d'autres bouquins, en plusieurs tomes en fait. Donc la roue du temps, on les attendait en se disant vite, vite, pour vous qui sort. Et c'était un tome où il se passait genre par exemple que la vie des courtisanes au bidule truc. Alors que dans le tome anglais, il y a ça, plus autre chose, plus autre chose.
Il se passait plusieurs fois rien, visiblement.
Non, mais, non, mais le truc, c'est quand même qu'en arrivant au tome en question, rétrospectivement, je me suis quand même demandé si c'était passé beaucoup de choses avant. Ah. Et voilà.
Mais quand même, enfin, je sais que ça a beaucoup joué pour encore moins apprécié, pour moi en tout cas, le découpage par rapport au découpage anglais. Mais j'ai pas non plus aimé, hein, mais j'ai quand même trouvé que c'était plus abusé.
C'est un effet déclencheur, c'est possible.
Ouais. Ouais, parce que ça découpait vraiment tellement le texte que ça devenait chiant. Quoi.
Merci, mais bon, c'est vrai que c'est.
Donc finalement, c'est... une intervention qui était pas prévue. Ouais.
Mais... de Madame Callisto.
une consultante, donc. De
voilà,
une
consultante en fantasy.
Ça a été la plaie, hein, d'ailleurs, justement, pour la traduction de la fantasy à une époque. Quoi. Alors je sais pas si c'est toujours le cas.
Le découpage en petits morceaux.
Ah oui, c'est l'horreur. Mais même après, petit morceau, l'editing, c'est-à-dire on coupe des passages et.
Oui, mais ça,
la roue du temps.
Dans les années 80, ça s'est beaucoup fait.
Sinon, un autre exemple, tiens, l'histoire de Dries Do Urden.
Ouais, c'est ça. C'est l'exemple qu'on
atypique, ouais. Où j'ai lu, j'ai ça parce que moi je l'ai lu en anglais et j'avais le bouquin en français, je l'ai pas fini en français. Et c'est incroyable, quoi. Il est deux fois plus épais.
C'est coupé de moitié, hein, c'est ça. Ouais. Puis t'as plein de les scènes de baston, tout ça. Je crois que t'es carrément qui était complètement
alors zappé. Que c'est le meilleur.
Mais je crois qu'il y a énormément de trucs qui ont été zappés. Hein.
Alors je sais pas, c'est la bonne occasion pour remercier Atalante de pas censurer Terry Pratchett.
On s'est quand même vachement éloigné du sujet de base. Alors
oui, donc on va revenir plus sur de l'actualité.
Qu'est-ce qui te titille là en ce moment?
Alors voilà, quels sont les jeux qui te paraissent intéressants et auxquels tu aurais envie de toucher, même hypothétiquement en fait?
Alors il y a des choses qui ont été abordées hors micro. Il a été finalement pas mal question de Cortex Plus.
Ouais.
Un certain nombre de fois.
Une forme en particulier?
Moi je. J'ai le gros défaut d'être relativement fan de Marvel. Le virus m'a repris récemment. J'ai eu l'occasion de maîtriser en démo et en partie un peu plus programmé.
C'est quelque chose du Marvel héroïque, donc.
Ouais, ouais. Marvel héroïque, oui, tout à fait. Marvel héroïque role playing. Ouais.
Bon bah voilà, tu chroniques. Pour,
Weiss,
tu sais ce que tu fais pour le mois prochain, tu fais une petite chronique. Hein, voilà.
Et donc c'est un jeu qui continue à m'intéresser, même si j'ai des difficultés avec. Pour un certain nombre d'éléments, mais
comme quoi, comme les auditeurs quoi. T'écoutent et ils peuvent répondre à tes questions
ou t'attendre devant chez toi.
comme la gestion du Doom Pool et le fait de vouloir préserver une partie de celui-ci ou pas en continuant à payer des deployed points pour rapatrier les dés même après les avoir utilisés.
Voilà, oui, donc pour rappel, en fait, quand les joueurs font des scores tout pourris sur leur dé, donc des 1, le MJ peut payer des plot points qui vont leur permettre d'utiliser leur pouvoir, super pouvoir, pour récupérer leur dé et faire grossir son Doom Pool, qui est sa base d'opposition, en fait.
Qui est l'équivalent des plot points des joueurs.
Ouais, et qui. Oui, ce qu'il peut. Il peut les, mais il peut les utiliser pour d'autres choses aussi. Enfin, oui,
il peut les utiliser pour
50 000 choses, voilà. Mais
quand il les utilise, donc quand il utilise les dés en question en opposition avec les joueurs, il peut payer tous les joueurs qui ont été dans l'opposition en question en plot point pour rapatrier les dés en question.
Du coup, ça lui coûte super cher.
Mais non,
c'est très relatif. De toute façon, pour moi, enfin, je sais pas, ça sera peut-être l'objet d'en discuter à une autre occasion.
On s'en fout, mais vas-y.
Mais
lâche-toi, dis tout ce que tu as sur le cœur.
Je pense que c'est l'objet de la dynamique héroïque du jeu, qui est que il y a un déséquilibre structurel dans les règles entre l'avantage que tu donnes aux joueurs avec les plot points et l'avantage que tu peux tirer avec le Doom Pool.
Ouais, parce qu'à un moment donné, tu te dis en fait, mieux vaut que je leur file pas de plot points et que je augmente pas mon Doom Pool et je m'en sortirai mieux. C'est ça ?
Pas forcément.
L'inverse.
Pas forcément. Je suis pour distribuer les plot points.
Là, c'est l'optique où tu joues contre les joueurs.
Ah bah, t'es censé être une opposition quand même.
Ouais,
oui, mais tu peux être une opposition en étant avec les joueurs.
C'est juste
t'es
que...
Tu joues en super vilain, comme elles sont un peu crédibles.
C'est juste que mécaniquement, pour moi, en tout cas le peu que j'en ai vu, les dépenses en plot points sont plus efficaces que les dépenses du Doom Pool. Mm-hmm. Et donc tu arrives forcément à une solution finale qui sera potentiellement positive pour les joueurs.
D'accord, bah c'est pour ça que je disais en fait, ça te contrecarre un peu parce que t'as plutôt envie de ne pas faire grossir ton Doom Pool en ne récompensant pas les joueurs avec des plot points.
Ah si, moi j'ai envie de faire les deux en fait.
Ah oui, mais tu te retrouves avec un Doom Pool qui te permet pas de gagner. Enfin, ce qui en même temps est le but du jeu, puisque t'es censé perdre en tant que méchant. Bah, mais...
si, après t'as quand même le mécanisme de clôture de scène si vraiment t'arrives à faire monter le Doom Pool très haut.
Ouais.
Mais j'ai pas encore trouvé les bons ressorts
pour arriver
au 2D12.
À tel niveau, ouais, c'est ça.
Et je suis quand même pour pousser les joueurs à utiliser les plot points. C'est ouais. La meilleure manière de les pousser à utiliser, c'est de leur en distribuer.
Bien sûr, bien sûr.
Et aussi la meilleure manière de les pousser à avoir une création narrative pour avoir le plus de dés dans leurs mains au moment où ils les lancent.
Ouais. C'est d'utiliser les plot points. Donc tu continues d'utiliser le Doom Pool tel qu'il est. Comme ça, tu files plein de plot points à tes joueurs. Toi, tu as 2-3 dés en barabe à utiliser. Donc, tout fonctionne bien, puisque ça achemine quand même les joueurs.
Je suis pas totalement sûr de mon dosage, en fait, pour l'instant.
Okay.
Et l'autre truc qui me bloque un peu en ce moment, c'est la gestion des distinctions de scène complémentaires.
Ouais. Alors pour rappel,
j'ai pas forcément la dynamique pour les générer, parce que en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tout dans le monde est caractérisé par des distinctions. Mmh. Que ce soit les personnages ou les PNJ, qui sont des éléments qui peuvent être utilisés de manière positive ou négative.
Alors un PNJ ou un PNJ, on a 3, c'est ça ? 3 distinctions à peu près ?
Ouais, 3, en tout cas pour les PJ c'est 3, pour les PNJ ça peut être moins.
D'accord. Oui, s'ils sont moins importants. Voilà, admettons un super vilain standard, on aura
pas du
deux.
Tout si vraiment c'est du PNJ décor.
Voilà, c'est ça. Si c'est des goons, ils en auront peut-être un. Si c'est un super vilain standard, genre Docteur Octopus, oui, admettons, il y en aura 3. Voilà, comme un PJ. Point.
Et après, il y a les scènes qui ont des distinctions.
Alors,
au départ.
Ces points peuvent être utilisés justement de ces distinctions de deux manières, soit pour gagner un bonus sous la forme d'un D8, soit de manière handicapante sous la forme d'un D4 qui va récompenser le joueur avec un de ses fameux plot points.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Ou récompenser si c'est le MJ qui utilise négativement quelque chose sous la forme du Doom Pool.
Voilà, ça fait grossir son Doom Pool.
Donc en gros, on choisit d'être confronté à une difficulté et de se créer potentiellement des problèmes parce que le D4 crée mécaniquement plus fréquemment des 1 qui sont aussi une source d'ennui pour l'un comme pour l'autre.
Ce 1, c'est quoi ? C'est une opportunité.
C'est
et ce dé ne sera donc pas on ne pourra pas l'inclure dans son résultat en fait. Le joueur ne pourra pas l'utiliser. Et donc éventuellement, le MJ va pouvoir payer un plot point pour récupérer. Pour faire grossir son Doom Pool. Voilà.
Et pareil, d'accord. Dans le sens inverse, quand c'est le MJ qui fait des 1, les joueurs peuvent acheter des avantages à base de plot points pour utiliser l'opportunité en question.
Voilà. Donc les distinctions de scène.
Et donc il y a des distinctions de scène qui sont utilisables par tous ceux qui sont présents dans la scène,
ouais.
PJ et PNJ.
Alors, oui.
Et on peut ponctuellement, en tant que MJ, décider de dépenser un D8 du Doom Pool pour rajouter de nouvelles distinctions à la scène.
D'accord.
Et j'ai pas forcément le bon réflexe.
Qu'est-ce que c'est les distinctions en fait ?
C'est ce qu'on a dit, les trucs qui te permettent de donner un D8 de bonus ou un D4. Donc en fait là, toi tu vas sacrifier un D8 de ton Doom, mais un minimum un D8 de ton Doom Pool pour rajouter un D qui potentiellement va peut-être te donner un D8.
Ah, mais c'est pas sûr en fait.
Bah, ça peut être toi, mais il va aussi servir aux joueurs.
C'est un choix en fait, que ce soit.
Parce qu'il
il
est réutilisable. Admettons, je mets la pièce est en feu. Donc voilà, je sacrifie mon déduit dans le Doom Pool, je décide que la pièce est en feu. Bon, mes PNJ vont pouvoir l'utiliser, les PJ vont pouvoir l'utiliser. Est-ce que c'est ad vitam aeternam ? Est-ce que ça va servir qu'une fois ? Comment ça marche ?
De mémoire, on fait pas disparaître les distinctions de ça. Voilà. Ah, si, on peut. Si, on doit pouvoir les faire disparaître.
Est-ce que ça va être géré comme une complication ?
Non, c'est pas une complication, hein. C'est vraiment une distinction qu'on décide d'utiliser ou pas, comme on décide d'utiliser une distinction de personnage.
Ok. Bon, bah là j'aurais un peu tendance à dire, si c'est le fait de sacrifier du Doom Pool qui pose souci, bah pouf, tu crées simplement un aspect de scène, à la limite.
Non, mais déjà de base, tu peux. Tu peux en avoir un certain nombre dans la scène, c'est juste une manière d'enrichir.
Je me suis trahi, j'ai dit aspect de scène, en fait, pensant du coup du A-Fate, qui va aussi généralement permettre d'avoir des aspects de scène.
C'est tout à fait parallèle.
C'est texto la même chose.
Et la filiation est reconnue, pas directement dans les règles de Marvel Heroic Roleplaying, mais dans le. dans le Cortex Plus Hacking Guide, où il y a une référence explicite qui est faite à Fate. Et
où dans Fate, on aura le droit à une invocation gratuite pour gagner un bonus. Sur, voilà, le premier qui utilise le fait que ça soit en feu gagne un bonus. Mais dans MHR, on a donc un bonus potentiellement constant tant qu'on n'a pas altéré l'état de la scène. Quoi.
Enfin, on a un bonus ou un malus.
Ouais, on a cette possibilité. Ouais.
D'accord.
Par exemple,
donc, c'est...
Si le...
Alors, ça, c'est ce à quoi tu aimerais jouer ou...
Non, là,
il fait jouer.
C'est ce
à quoi
tu fais jouer.
Voilà. J'ai fait jouer jusqu'à présent plutôt sur du court. J'aimerais
donc,
bien faire un
espèce de one shot suivi en fait.
Pour l'instant, j'ai fait beaucoup de one shot en conve.
Ouais.
J'en ai fait sur un peu plus d'un an et genre pour faire court, on va dire à 5 conves en.
Ouais.
Base de une ou deux séances par conve.
Parce que c'est des choses assez courtes quand même parce que c'est du assez concentré d'action, donc ça vaut quand même bien aussi vanner un peu. Enfin, si tu fais. C'est plutôt de l'enchaînement de bastons entrecoupés.
J'arrive avec la pratique à tenir sur un format qui est adapté en conve tout public, qui est le format de 2 heures.
2 heures, ouais.
J'arrive avec le minimum de départ de synchronisation, d'explication minimale, on va dire que c'est plutôt 2h30 que 2h, mais
c'est ça.
Parce que le jeu a peut-être l'air compliqué comme ça quand on l'explique, et c'est assez compliqué de lire le bouquin et de mettre en jeu les règles, mais en fait, moi j'y ai joué en tant que joueur, et c'est d'une grande fluidité, enfin, tout fait vraiment sens, et autour d'une table, c'est assez facile de se mettre dans le bain. En fait.
Oui, avec un petit peu de support de jeu pour bien constituer sa main, éventuellement sous forme un peu de tableau.
Mais je pense que le jeu est quand même pas mal adapté, même pour des joueurs débutants.
Je pense que c'est le plus accessible.
On peut prendre quelqu'un à table, lui faire lire l'arrière de la fiche de perso et le faire jouer directement.
Oui, si on prend les 3 Cortex Plus existants, actuellement, genre Smallville, Leverage et Marvel, à mon avis, Marvel est effectivement celui sur lequel tu auras plus de facilité à inclure quelqu'un, quoi.
Parce que l'univers est plus connu, parce que...
L'univers, même la mécanique...
Qu'il a une simplicité qui est plus... De dynamique de narration qui est plus évidente pour tout le monde, etc.
Oui, c'est ça, voilà. Les vrais, on va être dans du heist, donc c'est toujours un peu compliqué. Comment est-ce qu'on fait les actions? Qu'est-ce que je vais faire après, etc. Marvel et c'est... je vais remettre en cause mes...
On rentre dans des détails...
Ça devient pointu.
Ouais, ça devient assez pointu.
Alors peut-être faudra-t-il faire un spécial Cortex Plus.
Ouais, peut-être. ce serait l'occasion que tu en parles. Qu'en penses-tu?
Si j'ai dit ça comme ça, c'est que j'y suis pas forcément opposé. Je te lancerai pas une branche pareille si je me proposais
si,
pas.
S'il y avait pas un truc derrière. Avec grand plaisir. Et alors du coup maintenant, à quoi tu aimerais bien jouer dans tes rêves les plus fous?
Dans mes rêves les plus fous.
Genre, tu as le groupe idéal.
Alors, en fait, il y a des...
Parce que parfois, on joue pas à des trucs parce qu'on dit...
Non, on n'a pas les joueurs.
Jamais mon groupe voudra accepter ça.
Alors, le truc, c'est que oui, dans l'idéal, j'aimerais bien trouver une vraie table qui puisse jouer Ars Magica tel qu'il est construit pour être joué.
C'est-à-dire avec des personnages tournants ou
avec
on
les
joue
personnages
pas toujours les mêmes personnages de
pas
la coterie.
Pas forcément avec le MJ tournant, mais au moins avec les personnages tournants.
Où tu joues les servants, tout ça. Enfin,
bah,
tu joues d'ailleurs, c'est que des servants plus un mage.
Les grog.
Les grog, ouais.
Les grog.
Oui, servant, c'est une traduction un peu bizarre. C'est un mot un peu bizarre qui n'est pas censé exister en français, mais qui est dans la traduction de la V3 depuis Descartes.
Ouais, c'est ça.
C'est un terme qui a été repris dans la traduction courante.
Qu'est-ce qui empêche pour le moment de trouver une table avec des gens qui vont accepter de ne pas jouer toujours le même personnage et des fois de jouer le garçon d'écurie?
Oui, mais sache, Callisto, que ton cas, c'est spécial. Tu as des joueurs étranges et tout. Je sais pas, tu dois les cultiver en laboratoire. Mais ils sont pas tous comme ça.
D'accord.
Non, et puis ça. Ben on parlait. C'est Cyril, c'est ça? Qui parlait tout à l'heure d'un investissement
psychique
dans un jeu. Et
là,
on parle
jouer
pas
des
simplement
qui lancent des boules de feu.
Psychique.
Pourquoi?
Les mécanismes d'Ars Magica sont pas super simples.
Ouais.
Oui,
ça, c'est plutôt ça qui
m'a embuté. Il y a de l'inter-scénar qui demande une part de gestion.
Style des phases d'hiver de Port Dragon, des trucs comme ça un petit peu, ou n'importe quoi. Enfin, il y a plein de jeux qui ont des phases comme ça un peu où on fait évoluer les choses.
Oui, mais après, les joueurs que je croise le plus souvent, il y a deux types de joueurs. Il y a celui qui veut, on va dire, construire à l'extrême et. avoir une influence notable sur la campagne, quitte à la
en fait il aimerait être MJ mais sans se taper le boulot.
Il y a de ça, ouais.
Oui, d'accord.
Oui,
il aimerait jouer à Apocalypse World.
Oui, c'est ça, il y a des jeux pour cet homme.
Finalement, ça
lui... Il y a des jeux pour lui.
En fait, on a des choses à proposer.
Ça lui sert pas encore.
On va te faire des hacks.
Finalement, être MJ, c'est pas assez. Il veut aussi que son perso ait une place notable dans la campagne courante. Et voilà.
Bah là, il veut que son investissement psychique, en fait, dans le jeu, soit récompensé. À l'inverse du... Je sais pas quoi, le truc de SM, là, que t'as dit tout à l'heure.
De SM ?
Oui, dans le CSM.
Mais ah si, oui, voilà,
le CSM
ça,
de Cyril. Voilà. Bah, le CSM, en fait, ils avaient pas de récompense pour leur boulot, puisqu'ils œuvraient pour le bien du jeu, etc., dans la grande ligne. Et lui, il voudrait œuvrer dans le bien du jeu, mais que ça récompense aussi son personnage dans le jeu.
Et après, tu as les joueurs qui sont peu disponibles et ouais. qui, donc, cet investissement inter-scénar de construction,
ouais.
voilà, ça peut être trop.
Déjà, faire des choses pendant la partie, c'est compliqué, des fois.
Ah, tu es dur.
Oui.
C'est, en fait, c'est les joueurs sans torrette décrits par Croc dans.
Oui, tout à fait. Bah oui, mais c'est
sûr.
Non, mais ça, c'est bien s'ils amènent des chips déjà.
Ouais. C'est bien d'avoir quelqu'un pour le ravitaillement. Je sais pas s'il faut faire une dédicace du jour ou pas.
Et alors, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a accroché dans le podcast en fait ? Qu'est-ce qui a fait que tu as continué d'écouter finalement ? Parce que tu aurais pu écouter et dire ah là là, c'est vraiment de la merde, comme a dit Yvon il y a pas très longtemps. voilà, tu vois, quel est le point d'accroche qui fait que tu as envie d'écouter
pourquoi
le prochain.
Tu es resté
en fait. Voilà, c'est ça, mais
ça me rend forcé. Je n'écoute pas tout.
Ah, ok. Ah, bien. Bien, bien. Et en fait, c'est en fonction des jeux qui sont abordés.
En fonction des sujets, des jeux, etc. Ouais.
D'accord.
Parce que, on parlait de titiller, de choses auxquelles j'aimerais éventuellement jouer aussi. Ouais. Il y a des choses, il y a des jeux que je pense ne pas savoir comment maîtriser.
Ouais.
Et par exemple, cela, ça m'intéresserait de pouvoir voir comment on peut réellement y jouer et quelles sont les conditions à réunir pour que ça marche.
Genre,
il y a deux exemples indépendants qui me viennent rapidement à l'esprit. Un qui est transatlantique et un qui est franco-français.
Ouais.
Merde, je me disais, je crois que c'était le jeu transatlantique.
Mais oui,
je ne mérite plus ma place à Radio.
La tête de Callisto quand il se rendait compte qu'il connaissait pas le jeu, c'était tragique, quoi.
J'allais ouvrir la fenêtre, mais il y a un filet de sécurité.
Il voulait préparer l'affiche, sortir la critique instantanée, mais non, pas possible.
J'avais retourné mon t-shirt en signe de honte.
Tu sais, je ne connais pas ce jeu, non, c'est pas lié à Polaris.
Transatlantique, mais ça raconte quoi, tes filles? Un gars qui pédale. Un jeu solo où tu traverses l'Atlantique tout seul.
Alors, comme Cobal parle de Polaris, non, Polaris, j'ai eu l'occasion d'essayer.
Ouais.
Polaris de Ben Lehman,
ouais.
T'es mort à la fin?
Bah, normal.
Ah, attention à ce que tu vas dire.
La partie a été un peu écourtée pour des raisons de timing, mais j'ai quand même trouvé le jeu très intéressant et avec des dynamiques qui effectivement n'étaient pas traditionnelles.
Ouais. Mm-hmm.
Je pense que effectivement sont pas adaptés à des joueurs qui ont l'habitude de jouer avec une équipe, une répartition de rôles complémentaires, ouais. Un objectif commun à résoudre.
Ouais.
Je disais qu'il y avait les jeux que j'aimais bien, c'est les jeux qui réfléchissaient vraiment dans leur système à comment est-ce qu'on va partager la narration. Et s'il y a bien un jeu qui est exemplaire là-dessus, c'est vraiment le Polaris de Ben Lehman, hein, enfin, ouais. Qui pour moi est peut-être le meilleur jeu en termes de design. Enfin, je le trouve vraiment fameux.
Arrête de te caresser pendant le.
Mais le truc, voilà, c'est que Polaris, je l'avais pas lu avant d'y jouer. Donc
ouais.
Ça a été en improvisation sur la base de ce qui m'avait été dit par les, ouais. par les gens qui me le présentaient. Et finalement, voilà, ça s'est bien passé.
Ouais.
Par contre, les deux jeux auxquels je pense...
L'histoire que ça a créé était sympa ?
Oui, mais non, clairement.
Le jeu a fonctionné tel qu'il devait l'être.
Ouais, j'ai été très intéressé par les sacrifices qui ont été
ouais.
faits par mon J'allais personnage,
dire, qu'est-ce
la situation un peu cornélienne auquel ouais. il a été confronté.
Ah bah c'est le but du jeu.
Donc ouais, de ce point de vue-là, le contrat a été rempli. Ouais.
À moins que ta bien-aimée ne meure en même temps que le démon. Oh non.
Mais voilà, le contrat... allez, on va employer des gros mots, le contrat social, qui sont peut-être plus employés dans d'autres podcasts.
Non, ils sont
les bienvenus ici aussi.
Le contrat social était clair dès le départ entre les différents participants et le. Juste, quel est le terme typique d'Apocalypse World?
Le MC?
Non. pour le.
Le quoi?
Le contexte général du jeu, c'est.
Je ne sais pas.
Oh la honte, on ne sait pas.
L'apocalypse, narrativisme, jeu de rôle.
Ouais, vas-y, lâche des noms.
L'univers, voilà.
Non, mais le truc qui définit un peu le monde et qui manquait dans.
Le front.
Ah non, rien à voir. Non, ça, ce sont des agendas. En fait, ça ne définit pas en soi le monde et ça n'a
d'accord.
pas d'impact avec la création, mais ce sont en fait des règles auxquelles le MC va se raccrocher, entre guillemets, à se rappeler en fait que voilà, je dois faire en sorte que ça se passe comme ça, mon but c'est que ça aille dans telle direction, etc. C'est un peu des lignes directrices qui elles vont être même affinées avec les principes.
Qui sont en méta-jeu en fait.
Appuie sur le bouton à côté de,
ah oui, il faut
de Callisto pour le régler sur. Pas la critique complète de.
Juste, ce qui montre ma méconnaissance des jeux Apocalypse World. En dehors d'une partie ratée en termes de rendez-vous lors d'une démo.
De quoi?
Bah,
il a pas pu
j'étais
jouer,
parti
voilà.
pour, j'étais parti pour tester Apocalypse World et comment dire, on m'avait pas bien expliqué l'aspect confrontation inter-PJ, etc.
Ah oui, le côté PvP.
Et j'ai été un peu pris à froid.
Ah oui, donc tu es mort en fait.
Okay. Un peu douloureuse.
Ouais. D'accord.
Tu t'es fait prendre un coup de fusil à pompe dans le dos pour le deuxième round.
Non, c'est juste que quand parle de contrat social.
Non, mais c'est véritablement quelque chose en fait, faut que ça soit très clair. Hein. Il y a des gens qui ont été, à l'époque c'était pour du Smallville, mais j'ai eu des gens qui étaient un peu effectivement traumatisés avec cette idée de oh là, moi je veux pas gérer de conflit. Je viens pour m'amuser et tout, je veux me détendre, j'ai pas.
Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment le genre de jeu où il faut que tu dises avant la partie, alors voilà ce qui risque d'arriver à vos persos.
Voilà comment ça doit marcher, sinon ça ne marchera pas. Donc si vous ne pouvez pas remplir cette condition là.
Ça c'est vrai que c'est bien aussi de montrer ça. C'est-à-dire que sans une collaboration pleine et entière de ceux qui jouent tout autour de la table, ça ne peut pas marcher.
Voilà. Mais que du coup, en appliquant ce que tu trouves sur tes livrets, et théoriquement, le bon jeu, et si le MC applique ce qui est marqué sur son livret entre guillemets à lui, son vague écran, si tu appliques ça, le jeu doit émerger de ça, normalement, si tout se passe bien. Hein. Mais il faut que tout le monde remplisse son rôle.
Et donc après cette digression navigative,
donc tu veux jouer, oui, d'accord,
indépendante. Donc le jeu qui m'a beaucoup intrigué, c'est Analyse.
Oh.
le truc qu'on comprend rien quand on le lit, d'accord.
Okay. Voilà. Donc il y a pas que moi.
Non, c'est normal. C'est normal.
Donc c'est éventuellement, je sais pas s'il faut qu'on fasse un appel collectif à quelqu'un qui saurait maîtriser Analyse.
peut-être l'auteur du jeu.
Alors l'auteur du jeu, le problème c'est qu'il est un peu loin, mais. Par contre,
quand tu vois la gueule à Callisto, ça donne pas envie de jouer à Analyse.
Tu sais, je réfléchis, est-ce que je le ressors d'un tiroir?
C'est même pas envie, quoi.
Donc voilà, moi j'aurais bien envie de voir comment ça peut réellement marcher, mais je me sens pas pour maîtriser ça.
Mais du coup, en fait, il vaut mieux jouer à une espèce de Monster Heart ou un truc comme ça que à Analyse.
Hein. Ouais, mais c'est pas tout à fait les mêmes démarches.
Non, mais de toute façon,
Undying,
Heart,
Undying, pardon.
Ouais, mais ça a rien à voir non plus. Je crois.
Mais non, mais non. Le truc c'est que
dans
le
cap, dis un autre nom de jeu.
Non, s'il y a bien une chose que j'ai compris Analyse, c'est que le côté vampire d'Analyse est plus métaphorique qu'autre chose.
Voilà.
Oui,
c'est pas.
Mais
je sais pas,
moi je l'ai lu, mais je l'ai pas lu.
En fait, je pense que c'est peut-être un peu plus comme du My Life with Master, c'est-à-dire que t'as un espèce de truc qui représente le maître dans un jeu, et le pseudo-moins, le vampire de l'autre, auquel les autres personnages sont liés, on développe progressivement les liens, mais je veux vraiment pas m'aventurer là-dessus parce que ça m'est tombé des mains.
Vas-y
Jeff, vole-le nous, vas-y.
Je suis incapable de le vendre parce que.
Mais si, il y a une chauve-souris sur
la fiche de perso, par exemple. Peut-être pas de nous le vendre, mais en tout cas, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait des éléments qui t'intéressaient vraiment dans le jeu.
Je pense que raconter des histoires avec une espèce. Ça se rapproche d'une certaine manière de ce qui était dit tout à l'heure sur Sword Wizard Wii Remaster avec le tonnerre et la tempête, en fait. Le... Il semblerait... Là, je
vois pas du
conditionnel.
Dans certains milieux, on dit que...
Dans certains milieux autorisés.
Que le... y ait une entité vampirique, que ce soit le principe de tout le... toutes les utilisations d'analyse, une entité vampirique, que ce soit un être en particulier, que ce soit une organisation, que ce soit quoi que ce soit d'autre.
Un lieu, un objet.
Voilà. Qui, au départ, est présent de manière relativement distante par rapport au personnage et qui devient de plus en plus, se rapproche de plus en plus des PJ pour arriver au climax de l'histoire, qui se finit par un échec ou une réussite de cette entité par rapport à un ou plusieurs des PJ en termes de. Comment dire, de prise d'ascendant majeur sur eux.
D'accord.
Et je pense que ça, c'est intéressant à raconter. Après, moi, je me sens pas pour avec ce système-là.
Donc,
est-ce
en fait,
que j'ai compris
ce que,
les règles,
que tu vas décrire,
pouvoir le faire demain.
Ce que tu vas décrire pour la majorité des personnages, c'est leur échec par rapport à une certaine entité.
En fait, j'ai beaucoup oublié depuis que je l'ai lu, donc je préfère pas répondre à la question.
D'accord.
Voilà, c'est ça en fait. Ne
c'est,
prononçons
c'est un jeu
pas.
De rôle.
Oui, c'est un jeu de rôle.
Tu veux reprendre du punch ou ça ira?
Et donc, pour passer à l'autre jeu qui a, d'une certaine manière, quand même éveillé ma curiosité, mais je me suis pas senti la capacité de l'exploiter, c'est Monostatos.
Ça avait l'air rigolo, mais
j'aurais pas utilisé ce terme.
Mais le en fait, ce qui m'apparaissait à moi, c'était que c'était un jeu qui était vachement qui était pas un jeu fait pour un groupe, mais plutôt pour un ensemble de personnalités.
Pour moi, c'est effectivement le gros problème de Monostatos, c'est que c'est un jeu qui vante l'individualité de ses héros et il fonctionnerait presque mieux avec un joueur et un MJ. Ouais. Et c'est le problème de pas mal de jeux qui cherchent à casser un peu la logique de groupe de PJ, et certains y arrivent, comme Polaris, qui répartit les rôles entre tous les personnages, entre tous les joueurs, et du coup personne ne s'ennuie lors d'une scène de Polaris, mais Monostatos a quand même cette difficulté de pas articuler ce côté individuel. Et moi, je conseille de ne pas y jouer à plus de 2 PJ.
D'accord, okay. Parce que t'as eu l'occasion d'y jouer.
Moi, j'ai eu l'occasion d'y jouer. C'est un jeu que j'apprécie parce que je trouve qu'il a une assez jolie couleur. Enfin, j'aime bien ses thématiques.
Ouais.
Je trouve qu'il est un petit peu trop simpliste dans son système de résolution qui est efficace mais qui n'est pas vraiment marquant. Mais ça reste un jeu que j'apprécie.
Parce que j'aime bien les descriptifs des lieux, les adjectifs utilisés qui te permettent de donner vraiment une tonalité à ce que tu es en train de faire.
Oui, tout à fait. C'est un jeu qui permet, on n'a pas besoin de créer, on ne crée pas un scénario, mais on crée un lieu. Et toutes les informations sur le lieu sont connues de l'ensemble des joueurs autour de la table. Et ça permet très facilement de préparer une partie et de façon très efficace et très parlante. Enfin,
pour que les gens comprennent, le problème c'est quoi? C'est que si les joueurs ne vont pas tous dans le même sens, ou que pendant qu'il y a un joueur qui joue, l'autre joueur s'ennuie.
Non, c'est qu'on raconte autant d'histoires de Monostatos qu'il y a de joueurs autour de la table. Alors je caricature un tout petit peu quand même, mais pas complètement. C'est quand même ça l'idée, et c'est vraiment un problème puisque quand on ne raconte pas l'histoire de son joueur et de son personnage et qu'on est joueur et pas MJ, on a rien à faire finalement.
On n'a rien parce que ça n'a pas d'implication. Voilà, MJ n'a pas de moyen en fait d'utiliser ce qui se fait avec un
très
joueur.
Très peu. Enfin, il y a quelques scènes qui permettent de s'entraider, mais c'est vraiment pas le cœur de jeu et donc la thématique même du jeu fait qu'on n'a pas de raison particulière.
Donc c'est un peu l'antithèse de justement tous les systèmes Apocalypse World dont on parlait, où ça va être comment faire des retombées sur les autres joueurs.
Alors là on va pas se lancer dans ces débats. Moi je suis très critique sur les systèmes Apocalypse World qui pour moi ont ce souci d'assez mal articuler l'adversité entre PJ. Il y en a que j'apprécie, notamment j'aime beaucoup Apocalypse World, mais je ne pense pas qu'il soit si bien fait que ça pour gérer des affrontements PJ-PJ. Mais là, bon, je sais pas.
Ouais, c'est... dans Apocalypse World, dans Dungeon World notamment, c'est une mentalité de groupe. Mm-hmm. C'est-à-dire, on prend l'ensemble des PJ qui vont résoudre les conflits en cours.
C'est aussi mon avis, et je suis très sceptique vis-à-vis des systèmes qui utilisent l'Apocalypse System et qui font des conflits entre les PJ. Je trouve que ça ne fonctionne pas si bien que ça. Alors que beaucoup essayent de le faire, mais à mon avis, sans se donner les outils pour y parvenir.
Donc tu veux dire que dès le départ,
là par exemple, pour The Hood et tout ça, ça a l'air. Enfin, moi je trouve que ça a l'air de pas trop mal marcher. Enfin, tel que je le sens. Évidemment, j'y ai pas joué,
oui,
mais
bien sûr. Puis je suis pas rentré dans tous les détails non plus.
Mais en tout cas, tu sais, ça me titille. Je me dis, il y a moyen de faire des trucs assez, assez touchy entre personnages.
T'as moyen de faire sauter les gens, quoi.
Enfin, moi, j'ai testé récemment donc le hack de Apocalypse World, donc Dark Ages, et c'est un jeu où quand tu crées des personnages,
tu la racontes un maximum étant Dark Ages.
Mais j'étais très
déçu. Aussi, je le voudrais.
Je vais te rassurer, mais j'ai été très déçu parce que c'est un jeu où quand tu construis tes personnages, tu construis vraiment des forces politiques très importantes qui ont toutes les raisons de se haïr.
Oui.
Mais au final, la partie, on a été un peu obligé de s'associer, mais avec de vagues raisons, et la vraie raison c'est que si on créait pas un groupe de PJ cohérent, bah notre partie elle allait un peu dans le mur et on s'ennuyait beaucoup, quoi.
Oui,
et...
alors que je pense dans les
donc,
principes
du coup c'est pas un vrai playtest en fait.
Est-ce qu'il y a tous les outils en fait, ce qui est dispo, est-ce qu'il y a vraiment tous les outils pour gérer les aspects des fronts, et qu'on ait, parce que le sentiment premier moi que j'avais par rapport à du Apocalypse World, c'est d'accord, les joueurs ont des intérêts à se tirer dans les pattes, et le joueur, le MC, va en rajouter en ciblant des PNJ qui sont liés à différents PJ, mais dans le même temps, il va aussi mettre un danger tellement gros, en l'occurrence l'apocalypse, le manque d'eau, le manque de bouffe, la radioactivité, les pillards mutants, peu importe, qui font que, dans certaines situations, ils peuvent pas faire du « ok, je fous le feu à la base et je me casse et je laisse tout le monde là ». Il y a quand même, il y a un besoin d'être uni, tout en étant pas d'accord.
Pour moi, finalement, ce besoin d'être uni, c'est un mauvais moyen de régler un problème de système, puisque on joue à ces jeux parce qu'on aimerait faire du PJ versus PJ, enfin, et en tout cas faire des intrigues qui assez violentes entre eux, et on est obligé en fait de ne pas exploiter complètement le potentiel du jeu et de revenir à des schémas plus classiques, parce que en fait le
jeu, parce qu'on va pas oser tuer les autres, parce que quoi,
non, parce que si vraiment on s'amuse, enfin si vraiment on ne joue que sur de l'affrontement entre PJ, et qu'on ne fait pas intervenir cette super menace qui va nous obliger en fait à construire un groupe de PJ cohérent, bon, on se retrouve avec l'histoire fonctionne pas, et les joueurs se retrouvent à passer pas mal de temps en fait à ne rien faire et à ne pas être impliqués suffisamment dans la fiction. Mais bon, là encore une fois,
Oui, c'est ça, c'est en fait, tu passes tellement de temps à faire du micromanagement de merde que tu ne peux pas t'investir dans un truc de plus grande ampleur, voilà, où tout le monde va dans le même sens.
Ouais, tout à fait. Et pour moi, on aurait quelque chose à faire, par exemple, essayer de mixer la logique de Polaris et la logique de jeux comme Monster Heart ou même Undying pour régler ce problème et pour véritablement se donner les moyens d'avoir des PJ qui ne forment pas un groupe de PJ cohérent, genre groupe d'aventuriers qui partent ensemble à l'aventure pour lutter contre une menace plus grande qu'eux.
Alors après, ça me fait poser des questions par rapport à un jeu qui est assez ancien, puisque avec Paranoia, il y avait aussi des dynamiques d'opposition, même s'il y avait un groupe constitué, mais c'est une entité extérieure qui les contraignait à être ensemble.
Oui.
Oui, c'est vrai. Et puis le fait qu'ils aient chacun un espèce de point de pression qui fait que on sait qu'ils sont tous des traîtres
secrets.
Là en fait, tout à l'heure on a évoqué trois jeux Apocalypse World avec ceux qui se sont focalisés, qui ont choisi d'avoir une mécanique de dette, et là on trouve aussi un truc, une justification aussi, alors plus ou bonne, pas bonne, je sais pas, mais un moyen de dire ok, voilà pourquoi nos personnages ils sont liés, parce que tu me dois quelque chose, parce que tu m'as fait quelque chose, parce que je t'ai accordé quelque chose. Bon, c'est aussi un exemple qu'on n'avait pas du coup dans le premier Apocalypse World. Et on retrouve le même principe de toute façon dans Monster Heart, où ce sont des ascendants psychologiques en fait, que les personnages ont les uns sur les autres. En gros, voilà, j'ai vu que quand je te monte mes boobs, ça te fait de l'effet, ou que quand je te pète la gueule devant tout le monde et que tu chiales, j'obtiens une emprise psychologique sur toi que je vais pouvoir réutiliser en te rappelant cette scène, en te rappelant ce moment, en te rappelant cette faiblesse que tu as eue, et je vois que j'ai des leviers que je vais essayer de récupérer et reproduire après dans le jeu, quoi.
Ah tiens, machin, c'est toi le videur ce soir à la boîte bidule où je dois me rendre.
Macumba Club.
Oui, voilà. Au fait, ta petite sœur, ça va mieux? Voilà, c'est ce genre d'interaction en fait que tu peux avoir.
Ouais. Des schémas de pouvoir, quoi. Que ce soit des dettes ou parce que t'as compris dans un cadre adolescent comment que certains types d'actions avaient un impact sur un tel. Dans les deux cas, ouais, on est dans des schémas de pouvoir quoi, qui s'installent.
Exactement.
Et donc forcément, en toute logique, un personnage ne va pas vouloir rester dans cet état-là. Théoriquement, Monster Horde est censé aussi être une course un peu aux emprises psychologiques. Ce qui n'est pas facile du tout à mettre en place autour d'un jeu, parce qu'en fait, comme quels sont les moyens simples pour récupérer ces fameux ascendants, c'est de péter la gueule à quelqu'un ou c'est de l'allumer. Donc en gros, de faire usage de sa sexualité pour déclencher une réaction chez l'autre. Il y a d'autres moyens plus indirects.
Il y a ça dans le bouquin de Monster Heart, il montre comme exemple, c'est un PJ qui allume le père l'une des autres.
Oui, c'est sûr. Parce qu'en fait, si tu te mets bien dans la position de mon personnage, n'a que ce moyen-là pour essayer d'arriver à obtenir quelque chose, mais c'est une mentalité qui n'est pas facile à obtenir autour de la table, de même que...
Là, c'est un truc qui est aussi dans l'agenda du MJ de Monster Heart, c'est transformer des personnages humains en monstres.
Tout à fait. Il faut toujours que les humains soient pires, en fait, et que occasionnellement, les monstres soient humains. Ce qui te fait de plus en plus douter sur ton choix, vers où je vais m'orienter, vers mon côté humain, vers mon côté monstrueux.
Après, au début, tu dis, oui, je vais plutôt favoriser ça, et puis en fait, tu dis... Ah ouais, mais non, en fait, c'est que des... ils sont vraiment trop nazes, et finalement, si j'étais de l'autre côté, ce serait... Enfin, moralement, finalement, là où on est mon perso, ce serait mieux. Et donc, du coup, tu évolues comme ça, vachement. Se peut très bien que, en fait, le choix ne se réalise que par à-coup, par... au fil des différents choix faits par le personnage. voilà.
Ah bah voilà, bah je vais réfléchir. qu'est-ce que je disais ?
J'ai fait usage d'un super pouvoir qui s'appelle
Confusion mentale.
Confusion mentale.
Je voulais dire, du coup, dans un groupe de joueurs, en fait, même si c'est pas toujours évident d'avoir des mécaniques de séduction, justement, puisque la séduction passe pas spécialement par les mots, mais aussi par justement l'usage de sa sexualité, donc le gain d'emprise. Mmh. Et du coup, en fait, on n'a pas toujours cette course à l'emprise qui devrait être assez importante, parce qu'on veut, en se mettant dans le contexte d'un adolescent monstrueux américain,
ces gens-là n'ont pas de culture, ils sont différents, on peut faire n'importe quoi avec des persos comme ça.
la pression sociale, les groupes sociaux, les clics, etc., sont beaucoup plus marqués que chez nous. Et c'est difficile de se mettre dans ces rôles-là et de se dire, non, il faut à tout prix que je sois en contrôle. Et pour être en contrôle, rien de mieux que la course à l'emprise, quelque part. Donc de gagner des ascendants sur les autres personnages. Et du coup, en fait, ce côté-là va avoir tendance à... d'expérience hein, sur un certain nombre de campagnes, c'est pas évident de voir se renouveler en fait les gains d'ascendant. Et du coup les gens vivotent en fait sur un même pool qui lui-même est censé influencer les aspects qui vont être sélectionnés, puisque la personne qui a le plus d'ascendant sur toi va décider en début de partie lequel de tes aspects il veut voir mis en démonstration, et du coup ce truc là ça bouge pas non plus, enfin voilà. Et du coup, comme le pool bouge pas non plus, on ne dépense pas les emprises, alors qu'on devrait souvent être dans une dynamique de comment est-ce que je fais pour en récupérer, ainsi de suite. Mais on va pas tabasser les gars toutes les deux heures, ou effectivement leur faire le regard langoureux toutes les deux heures. Donc, quelque part, on a un peu un échec qu'on n'a pas dans une situation de one shot où on pose bien des choses, et où là, les gens vont se dire ok, c'est bon, j'ai 3 heures pour claquer mes emprises, donc là, elles vont vraiment servir, quoi. Ça peut être un bon apprentissage, mais j'ai du mal à le retrouver sur des campagnes de plus longue durée. Donc, ce côté PVP est pas facile effectivement à développer et entretenir, à le faire une première fois, le faire venir, oui, mais à le faire entretenir et rester au fil des sessions, c'est pas évident.
Tu prends ta grosse voix, tu dis faites du PVP.
Ouais. Bon, tu vas lui péter la gueule,
sinon je vous casse la gueule. Nous autres.
Non, mais c'est vrai que autant les gens vont se rembarrer et s'envoyer chier, autant commencer à se taper dessus. Alors que dans Monster Heart, les personnages sont quasiment immortels. Hein, pour leur taper dessus, c'est pas comme dans les autres jeux. Il faut vraiment y aller avec un tank. Et plusieurs fois de suite, en faisant marche arrière.
Voilà, c'est ça.
Donc il n'y a aucun problème pour ça. Mais du coup, le fait de passer au stade de la violence physique va généralement être plus problématique. Parce que forcément, on a un cadavre sur les bras après. Mais bon, on joue des monstres. Il n'y a qu'à manger le cadavre pour faire disparaître les
preuves. Alors, c'est pas passé, c'est pas.
Donc, je sais plus du tout où on en était. C'était quoi le début de ta réflexion ? C'était, tu étais intéressé par...
Je me posais la question d'au moins deux jeux, donc, et la manière d'y jouer. Donc, j'ai eu des réponses.
C'est qui était analyse et monostatos. Ah oui, et donc, oh là toi, là. Ça n'a aucun rapport.
Ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et aucun des deux n'a été... L'analyse n'a été particulièrement positive.
Bah si, a priori, l'avis sur, sur Monostatos, c'est juste
oui,
c'est
oui,
un jeu de taille adaptée.
Que j'aime
oui,
bien,
voilà,
mais effectivement, il faut, à mon avis, on peut pas y jouer à plus de 3, et,
ouais.
Et voilà, enfin, ce qui est quand même un vrai souci. Pour quoi que...
Ok, bon, eh bien, je vous propose qu'on arrête là l'émission, parce que franchement, on en est à 5h53 d'enregistrement, et je pense que c'est vraiment beaucoup trop, je vais en chier pour le...
Ah, mais c'est les vacances, les gens auront des choses à écouter.
Ah,
mais, bon, ils pourront dire, mais qu'est-ce
qu'à,
que c'est
t'as qu'à faire
truc
plusieurs trucs, et tu fais comme si on avait fait plusieurs enregistrements différents. Si tu veux, on réenregistre un truc où on dit bonjour, tu vois.
Tu peux
alors,
faire...
Non, je ne fais jamais ce genre de
salut,
choses.
Salut, nous sommes le 14 juillet.
Qui, tu peux faire un montage qui fasse en sorte que ce que je dis ait du sens.
mais Cyril, ça a toujours du sens ce que tu dis. Donc, eh bien, nous allons conclure cette émission car vraiment
il fait très chaud.
Il fait très chaud et nous sommes pleins de ponche et il est vraiment temps. Eh bien, merci Jeff d'avoir participé à cette émission. J'espère que t'as pas trouvé ça trop chiant.
Alors, donc maintenant tu as compris, la prochaine fois tu fais une chronique de MHR en 15 minutes. C'est normalement, quand t'arrives, on te dit faut que tu actives en 15 minutes. Hein. Un an plus tard, ça tient une heure.
Non, j'espère
mais
juste que.
Sauf dans les épisodes d'apéro où, tiens, il y a eu une chronique de 40 minutes à la place de 20.
J'espère juste que les deux autres qui étaient invités seront pas trop découragés par. Est-ce qu'ils auront pu percevoir de ma prestation?
Non, 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 non. Ça se passe toujours très bien, crois-moi. Bon, eh bien, merci aux auditeurs de nous avoir suivis jusque-là. Ils sont vraiment courageux. Donc, merci à tous. Merci Jeff. Merci Madame Callisto. Merci Callisto. Merci Steve. Merci Cyril.
Merci. Et bonne canicule.
Et effectivement.
Et merci François qui n'est plus là parce qu'il a dû se sauver.
Oui.
C'est pas qu'il a plus rien à dire depuis deux heures.
C'est qu'il est parti. Merci Madame Callisto pour les muffins et merci Cobal pour le ponche qui a fait son œuvre.
Voilà, c'est le truc. En fait, j'essaie d'attirer les auditeurs comme ça pour qu'ils viennent discuter, mais en fait, ils sont très peu nombreux. Pouah. Ça fait une super mauvaise conclusion, en fait.
Ouais, on en refait encore une.
Je pourrais sortir une blague, oui. Je fais une blague sur alors, Toto allez, et le
tu as fait une, tu as fait une conclusion en style Mossad.
Ouais.
Maintenant, jette les dés. Si tu fais un double 3...
Alors, j'ai fait un double 3, dis donc.
Eh bien, écoute, tu repars sous un style jovial. Salut les rôlistes.
Alors, salut les rôlistes. Nous avons fait une super émission ce soir. Et ce soir, il y avait Jeff. Il y avait ouais salut et à la prochaine fois.
Bip bip.
N'importe quoi.